Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette troisième saison. C'est la rentrée pour Sciences Num, le podcast de Télécom Sud Paris, qui donne la parole aux experts qui cherchent à faire avancer les connaissances et les innovations. Aujourd'hui, mon invité est Sandro Franceschi. Il est maître de conférences en probabilité dans le domaine du mouvement brownien. On va donc parler de recherche fondamentale. Bonjour Sandro.
Bonjour.
Alors Sandro, vous êtes qui et vous venez d'où ?
Rapidement, j'ai commencé mes études à Marseille, puis j'ai eu la chance d'intégrer l'École normale supérieure avant de poursuivre en thèse avec deux directeurs de thèse, Irina Kourkova et Kylian Rachel, à Sorbonne Université à Jussieu, dans le domaine du mouvement brownien. Après ma thèse, comme de nombreux chercheurs, j'ai eu quelques années d'incertitude, c'est-à-dire quelques années de CDD, d'ATER et de postdoc. Et puis j'ai eu la chance d'être recruté dans cette belle école, Télécom Sud Paris, et d'enseigner les probabilités en tant que maître de conférence.
Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans cet écosystème de Télécom Sud Paris ?
Je pense qu'une des choses que j'apprécie le plus, c'est tout simplement la grande liberté qui nous est accordée dans notre recherche, qui amène du coup un épanouissement intellectuel certain. La deuxième chose, tout simplement le contact avec les étudiants, qui est très important pour moi, et notamment la question de la transmission du savoir. Quand on est formateur, quand on enseigne, c'est qu'une fois qu'on a enseigné quelque chose qu'on le comprend profondément.
Si on revient sur votre spécialité, les probabilités, comment les définissez-vous ?
Alors les probabilités, la théorie des probabilités, si on veut le définir simplement, c'est quantifier le hasard. Alors historiquement d'ailleurs, le hasard c'était associé à la notion de divin. Donc si on veut dire, on peut dire la théorie des probabilités revient à rationaliser le divin. La théorie des probabilités cherche à évaluer le degré de certitude ou d'incertitude d'un fait ou d'un événement, c'est le vocabulaire qu'on emploie dans la théorie.
Alors une petite question que je me pose, la différence entre probabilité et statistique qu'on peut parfois confondre.
C'est une très bonne question. En effet, les deux théories, probabilité et statistique, sont deux théories fortement intriquées, qui sont très proches, mais qui ont en fait des modes de raisonnement totalement inverses. Les probabilités, on va partir en fait d'une loi. Alors qu'est-ce que c'est une loi ? Une loi, c'est une règle qui va régir le monde. Et on va essayer de déduire de cette loi ce qu'il va se passer, prédire le futur grâce aux lois qui régissent le monde. Les statistiques, c'est exactement l'inverse. On va partir de ce qu'il s'est passé, on va partir des données brutes, et on va essayer d'en déduire les lois ou un modèle qui justement régit le mode. Donc en fait, les probabilités et les statistiques, c'est la même chose, mais on parcourt en sens inverse. Et ça, de fait, ça développe des raisonnements relativement différents. Pour résumer, les probabilités, on prédit l'avenir grâce aux règles qui régissent le monde. Et les statistiques, on détermine les règles du monde grâce à l'étude de ce qu'il s'est passé.
De tout temps, les hommes ont utilisé les probabilités. Ça s'est transformé en science progressivement. Vous pouvez nous éclairer sur ce point ?
Alors, c'est un peu difficile de répondre à cette question. En fait, elle est à la fois ancienne et récente. Alors, elle est assez ancienne dans ses formes, entre guillemets, les plus simples. Par exemple, le mot « hasard » vient de l'arabe « le jeu de dés ». Et donc, on retrouve des textes très anciens dans toutes les civilisations qui parlent de différents jeux, de jeux de dés. Par exemple, dans le Mahabharata, qui est un texte indien sacré, on trouve quelques études déjà de probabilité vers le 4e siècle. En Europe, en tout cas, c'est au 17e siècle qu'on voit un peu plus émerger ces théories du hasard qui sont essentiellement basées encore sur des jeux de dés, mais aussi sur la notion de risque qui est apparue dans des contrats commerciaux, dans des domaines de l'assurance maritime. Et c'est là qu'on a vu émerger la notion de probabilité fortement, et notamment dans la correspondance qu'il y a eu entre deux mathématiciens, Fermat et Pascal, qui débattaient entre eux de jeux de hasard, mais aussi des controverses juridiques pour savoir, par exemple, quelle probabilité on avait de condamner quelqu'un à tort.
Et il faut attendre le XXe siècle pour voir émerger la véritable théorie moderne. Pourquoi ?
Parce qu'elle nécessite la théorie de la mesure qui a été élaborée par Borel en maths et la théorie de l'intégration de Lebesgue. Et c'est qu'en 1933 que Kolmogorov a réussi une première axiomatique un peu rigoureuse de la théorie des probabilités. Et c'est qu'après-guerre, après 1945, qu'on voit émerger la véritable théorie du calcul stochastique par Itô. Donc de nombreuses applications des probabilités sont finalement une science de la deuxième partie du XXe siècle, donc quelque chose d'assez récent pour les mathématiques en tout cas.
Et maintenant, dans notre monde contemporain, comment ça se traduit ?
Il y a énormément d'applications, notamment dans les sciences du numérique, et c'est pour ça que Télécom Sud Paris fait une belle part aux probabilités dans son enseignement et sa recherche. Donc notamment dans le domaine des réseaux, des télécommunications, et aussi d'Internet, c'est quelque chose qui est très présent, les probabilités, dans le traitement du signal, ou encore des domaines plus appliqués, par exemple à la médecine, comme l'imagerie médicale. C'est aussi très présent en physique, les probabilités, par exemple en physique quantique ou en physique statistique. Ça peut être présent au quotidien dans énormément de choses dont on se sert, que ce soit la météorologie ou l'épidémiologie, on en a entendu parler récemment. Et c'est aussi utile dans des sciences comme la sociologie.
On a bien compris grâce à vous ce que sont les probabilités, on a vu qu'il y avait de très nombreuses applications, mais maintenant, concrètement, vous travaillez sur quoi ?
Alors moi, je travaille justement sur le mouvement brownien. C'est l'étude, en fait, d'une particule aléatoire qui va bouger dans un fluide, que ce soit un gaz ou un liquide, par exemple, et qui va bouger de manière totalement aléatoire. Elle a autant de chances d'avancer que de reculer, que de monter, que d'aller à droite, à gauche ou de descendre. En fait, ce premier mouvement, il a été décrit par un biologiste en 1827 qui s'appelait Brown pour décrire des mouvements de particules qu'il observait à l'intérieur de petites graines de pollen. Et il a perçu un mouvement totalement erratique de ces particules et le mouvement lui doit son nom. Mais ensuite, c'est qu'un peu plus tard, au début du XXe siècle, que notamment Einstein a commencé à étudier et à décrire quantitativement ce mouvement brownien. Pour faire simple, en gros, ce mouvement brownien a été très utile du coup en thermodynamique des gaz pour étudier des phénomènes de diffusion.
Et l'étude de ce mouvement brownien, à quoi cela vous sert-il ?
Alors moi, personnellement, j'étudie ce mouvement brownien dans la mesure où il permet de modéliser en fait des choses en lien avec la théorie des files d'attente. C'est comme quand vous allez à la boulangerie, vous faites la queue pour acheter votre croissant, et donc il y a plusieurs clients qui font la queue, et il y a un boulanger ou la boulangère qui va vous servir. Et donc l'idée, c'est d'étudier ces files d'attente. Et en fait, cette étude des files d'attente est très utile en informatique notamment, et aussi dans le domaine du signal, des réseaux et des télécommunications. La longueur de ces files d'attente peut être modélisée par ce qu'on appelle des mouvements browniens réfléchis dans des cônes. Et c'est ça le lien avec mon travail entre la théorie des files d'attente et le mouvement brownien.
Est-ce que vos travaux sont facilement applicables à ces domaines ?
Alors, mes travaux sont évidemment potentiellement transposables à un certain nombre de domaines. D'ailleurs, Télécom Sud Paris est un environnement très propice pour établir des dialogues avec des chercheurs un peu plus appliqués. Mais évidemment, moi, ma recherche est un peu plus fondamentale, un peu plus théorique. Je pense que c'est aussi important de pouvoir développer une recherche qui n'a pas toujours d'application, en tout cas immédiate. Et parfois, d'ailleurs, les domaines d'application sont non prévus et arrivent que a posteriori.
Sandro, quelle est l'originalité de vos travaux ? Je suppose que vous n'êtes pas le seul à travailler sur ce thème.
Non, en effet, on est un certain nombre à travailler sur le mouvement brownien. En fait, mes travaux sont développés sur une méthode qui est initialement apparue dans le cadre discret, c'est-à-dire pas pour le mouvement brownien qui est un mouvement continu, mais pour le cadre discret, pour des marches aléatoires. Et donc, un certain nombre de chercheurs dans les années 70, que ce soit par exemple Guy Fayol ou Vadim Malichev, avaient développé une théorie assez forte pour étudier ces marches aléatoires. Et moi, dans mes travaux, j'essaie de reprendre leur méthode pour l'appliquer au cadre continu, donc le cadre du mouvement brownien. Et en fait, ce qu'il y a d'original dans cette méthode aussi, c'est qu'elle mêle trois branches différentes des mathématiques. D'une part, évidemment, la probabilité et la combinatoire, mais deuxièmement aussi de l'analyse, avec notamment de l'analyse complexe et harmonique, et aussi une troisième branche des mathématiques, un peu parfois de l'algèbre avec de la théorie de Galois différentielle.
Et quel est le défi à relever exactement dans vos travaux ?
Alors, il y en a plusieurs. Par exemple, moi, j'étudie des équations fonctionnelles qui caractérisent en fait la distribution stationnaire du mouvement brownien réfléchi. Et en fait, ces équations fonctionnelles, on est capable de les résoudre en dimension 2. Et donc, on cherche encore à résoudre ces équations en dimension n, ce qui nous permettrait en fait de résoudre l'entièreté des modèles.
Sandro Franceschi, vous venez d'obtenir un financement de l'ANR, l'Agence nationale de la recherche, destiné aux jeunes chercheurs. Que comptez-vous faire de ce budget ?
Alors en effet, je viens juste d'obtenir un financement ANR avec le projet qui s'appelle le projet Résiste et je suis vraiment ravi d'avoir obtenu ce financement. Alors je me permets une petite parenthèse, maintenant un certain nombre de chercheurs postulent à ces projets et notamment il y a malheureusement un très grand taux d'échec, c'est-à-dire à peu près 80%, ce qui fait que dans la recherche on passe de plus en plus de temps à faire des dossiers, à évaluer des dossiers, etc. Et c'est autant de temps qui est pris sur le temps même de la recherche. Et en général dans la recherche on préfère les notions de coopération à celles de compétition, c'est un peu les valeurs promues par la recherche. Et donc, à mon avis, une solution serait d'essayer de donner un peu plus de crédits récurrents au laboratoire et des financements pérennes pour essayer d'éviter de perdre un peu du temps à demander des financements. Une fois cette parenthèse refermée, du coup, j'ai moi-même postulé pour un de ces projets pour obtenir des financements. Et donc, je vais m'en servir premièrement pour financer une thèse, ce qui sera évidemment très important pour moi et le domaine de recherche que j'étudie. Et deuxièmement, quelque chose qui me tenait vraiment beaucoup à cœur, c'est le fait d'organiser une conférence internationale qui va réunir un peu les spécialistes spécialistes mondiaux de mon domaine. Cette conférence aura lieu à Roscoff, en Bretagne, et elle permettra notamment, par exemple, de rendre hommage à certains spécialistes comme Michael Harrison ou Ruth Williams, qui sont des spécialistes internationaux, américains notamment, et que je vais donc inviter en France avec toute la communauté qui travaille dans ces mouvements browniens réfléchis et que je suis ravi du coup d'inviter grâce à ce financement.
Merci Sandro Franceschi pour ce témoignage et bravo pour cette belle initiative. C'est important de comprendre que la recherche fondamentale est nécessaire pour nourrir l'innovation, même si, comme vous le disiez, il peut s'écouler parfois de très nombreuses années entre les deux. C'était Science Num, un podcast soutenu par le Carnot Télécom et Société Numérique. La prochaine fois, je recevrai Nesrine Kahanich. Elle nous parlera de cryptographie et de sécurité. À bientôt.